C'était le pianiste Dimitri Malignan qui fait partie de la programmation du 75e anniversaire des Jeunesses musicales du Canada. Un anniversaire important. Et un autre anniversaire important, c'est celui du 40e de la Fondation JM Canada. Pour en parler, j'accueille au bout du fil Daniel Leblanc, directrice générale et artistique des JMC, les Jeunesses musicales du Canada. Bonjour, Madame Leblanc.
Bonjour, Madame Denis.
Et Florence Jonca-Adeneau, présidente de la Fondation JM Canada, qui est en studio. Bonjour, Madame Jonca-Adeneau.
Bon matin.
Alors, ça me fait bien plaisir de vous recevoir toutes les deux. D'abord et avant tout, là, pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler des Jeunesses musicales du Canada, c'est quoi le concept derrière ce que vous appelez aussi JMC, Madame Leblanc?
Ben, écoutez, les Jeunesses musicales Canada, c'est vraiment un incubateur de talents et à la base, ça a été créé par Gilles Lefebvre en 1949 pour justement permettre la diffusion et cette vision de démocratisation des musiques classiques, donc de rendre les musiques classiques accessibles au plus grand nombre. Puis au départ, ça a vraiment démarré avec des entreprises, des organisations dédiées à la diffusion de la musique existante et avec les années, avec la vision de Gilles Lefebvre, c'est devenu un réseau qui était littéralement pan-canadien dans les années 60 et 70 et qui permettait à des artistes de plusieurs groupes de musique classique. On avait du baroque, puis on allait même dans le jazz et parfois dans la musique folklorique, à faire des tournées à travers le Canada. Puis avec les années, ben, se sont développées des activités parallèles pour renforcer ce volet de démocratisation en le faisant par de la médiation et auprès des enfants principalement, et aussi en travaillant des concerts théâtraux spécifiquement ciblés pour les jeunes, je vous dirais principalement là, entre 3 et 12 ans.
Madame Jonca-Adeneau, vous êtes la présidente de la Fondation JM Canada. Et c'est quoi la mission de la Fondation? J'imagine c'est d'apporter de l'eau au moulin, un petit peu d'argent.
Mais essentiellement, la Fondation a comme but de soutenir le développement des activités dans les missions des Jeunesses musicales Canada. Donc, supporter les activités qui s'adressent au très jeune public, les enfants, par tout un ensemble de produits qui doivent être utilisés. Mm-hmm. Et supporter aussi le développement de la relève musicale, ce qu'on appelle les jeunes virtuoses, les jeunes prodiges, qui vont se retrouver à un moment donné nos grands artistes. Donc on a vraiment deux grands volets, et pour cela on fait appel évidemment à la philanthropie pour atteindre ces objectifs. Philanthropie qui est un parent récent dans le domaine des arts et de la culture.
Justement, on en parle à la Une du Devoir aujourd'hui. On parle de la culture qui reçoit une part assez mince par rapport à d'autres missions comme l'aide internationale ou la religion.
La culture, les arts et la culture se situent au 11e rang,
oui.
Juste après la religion et puis les activités internationales. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus récent la philanthropie dans le domaine de la culture. Il a fallu attendre 2014 pour avoir le premier cours en philanthropie au HEC. Et la philanthropie, ça passe quand même par des experts, c'est quelquefois technique. C'est généreux de la part des entreprises, des citoyens, mais il y a aussi un volet technique qu'il faut apprendre. Ce qui est remarquable, c'est que dans le domaine des arts et de la culture, les citoyens sont très peu approchés, donc donnent très peu au Québec, à peine 6% de la population. Alors que les entreprises ont commencé à rentrer dans le mouvement depuis surtout une quinzaine d'années.
Est-ce que vous avez l'intention de les approcher davantage, les citoyens et citoyennes?
Oui, ben ça fait partie des stratégies de la Fondation. On a 4-5 volets qui s'adressent à des clientèles différentes, dont les citoyens, qui est un gros morceau de nos stratégies. Et ça veut dire qu'il faut imaginer des événements, imaginer des approches pour les rejoindre. Donc, il faut être un peu imaginatif. Et évidemment, le volet des entreprises qui... Vous savez, la culture, la musique, on ne peut pas s'en passer dans la société. Hein, ça fait partie de la vie depuis la nuit des temps. Et ça embellit notre univers. Il n'y a pas de frontières. Ça rassemble le monde. C'est économiquement viable. C'est environnementalement sain. Ça fait du bien au cerveau et au cœur. Il n'y a pas de raison qu'on n'y contribue pas, surtout dans des moments où c'est dur financièrement, hein, le développement des arts et de la culture.
Et Madame Leblanc, vous parliez de musique. On parle de musique depuis tantôt, là. Mais les jeunes, les jeunes en général, est-ce qu'ils sont ouverts à tout type de musique? Est-ce qu'ils sont réfractaires à la musique classique? C'est quoi leur rapport à la musique?
Ah, moi, je pense que quand on les attrape, quand on inclut les enfants dans le bassin musical, peu importe son type, son genre, les enfants sont ouverts à tout. À un moment donné, dans la construction de l'identité individuelle, l'effet aussi, quand on passe à travers l'adolescence, c'est sûr qu'il y a peut-être une séparation qui s'installe parce qu'on veut faire partie de, pensez-moi l'expression, du groupe. Mm-hmm. Et si le groupe n'est pas branché, n'est pas aligné sur ça, ben effectivement, il y a probablement une distanciation qui s'installe. Mais ce qu'il faut faire, nous, ce n'est pas les perdre de vue et s'organiser pour trouver des types de musique, des types de concerts, des interventions musicales qui vont les ramener à apprécier à nouveau la musique classique parce que, comme Florence l'a si bien mentionné, les musiques classiques, la musique en soi, c'est quelque chose qui est chez nous depuis que l'homme existe. Ça a commencé par les percussions et ça s'est bonifié, complexifié avec les années et le développement d'instruments. Le cœur qui bat est en soi un instrument. Donc, tout ce qui nous entoure est de la musique. Donc, c'est simplement de trouver la petite étincelle qui va faire en sorte que l'enfant va grandir en musique et va continuer d'évoluer comme citoyen. Parce que s'il y a une chose à laquelle je crois fondamentalement, pour avoir moi-même bénéficié d'une éducation que je qualifierais entre guillemets de privilégiée, j'ai fait mon parcours scolaire au public, mais dans des écoles avec des programmes en musique très, très forts, tant au secondaire qu'au primaire. Et je sais que la musique a une puissance transformatrice et elle donne des outils et elle est complémentaire à tout ce qu'on peut enseigner d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue académique au primaire et au secondaire, assurément, que ce soit dans les mathématiques, dans la conception du citoyen, dans le travail d'équipe, dans le respect des échéances. Faire un peu de chorale, se fixer un objectif de concert une fois par année avec un professeur dédié, ça forme le citoyen, ça forme la personne qui va contribuer, à la société plus tard. Alors, si ce n'est que pour ça, la musique est fondamentale pour la construction du citoyen, puis il faut s'organiser pour aller les chercher, nos jeunes qui s'éloignent en développant des outils et des façons de faire différentes.
Et vous parliez de démocratisation et de votre privilège à vous d'avoir été rapidement en contact avec la musique. Et mm-hmm. justement, c'est peut-être un peu galvaudé comme mot, mais c'est quand même important d'atteindre le plus grand nombre, pas seulement des gens qui viennent de milieux plus aisés ou favorisés.
Absolument, et c'est pour ça que nous, on a des programmes dans le cadre de notre 75e, entre autres, où on va offrir des activités gratuites, on va permettre à des élèves en milieu défavorisé, c'est quelque chose qu'on fait depuis de nombreuses années, c'est simplement que cette année, on le souligne encore pour 2024-2025, on le souligne encore de plus belle façon avec le retour d'un artiste qui a fait énormément de concerts jeunes publics chez nous et qui fait maintenant carrière autonome. Et donc, on a décidé de le réinviter chez nous en 2024-25. Fred Demers, un excellent trompettiste, qui vient présenter sa mouture d'un concert qu'il avait bâti avec nous au départ et qu'il a version 2.0, donc Fred solo. Et ça va être présenté gratuitement aux écoles en milieu défavorisé parce qu'on a ce souci-là. Puis on essaie d'accrocher aussi, et ça, la Fondation fait un travail exceptionnel, d'accrocher des donateurs à des projets qui auront une vision sociale. Je pense entre autres à Optempo, qui se fait en collaboration avec Espace Transition et qui permet à des jeunes qui auront vécu un parcours difficile sur le plan psychologique et qui aura peut-être nécessité même un séjour en milieu hospitalier, de faire une réinsertion sociale, familiale, amicale au niveau du réseau par des ateliers, dans notre cas, de percussion, donc ce qu'on appelle un cercle rythmique. Et au bout de 13 semaines, ils partent de gens qui avaient perdu peut-être un peu contact avec leur milieu à des jeunes qui vont faire un concert d'à peu près une trentaine de minutes devant un public fermé, mais quand même, famille, amis, étrangers aussi, et qui vont diriger un cercle rythmique, vont faire un solo dans un cercle rythmique, vont contribuer des œuvres. Donc, on a cet engagement et ce désir de démocratiser donc la musique de cette façon-là, pas juste d'une façon passive en écoutant et en appréciant, mais aussi en participant.
Alors, Fred Solo, c'est présenté par la famille Jonca-Adenau, la Fondation Famille Lupien et la Fondation Sibylla S. Ça va être en 2025, du 10 au 14 février, à la salle Joseph Rouleau, Montréal. Et ce sera tout à fait gratuit pour 1000 élèves issus de milieux défavorisés, comme vous le disiez si bien, Mme Leblanc. Et vous vouliez poursuivre, Mme Jonca-Adenau?
Oui, j'aimerais poursuivre en disant on a eu toujours dans la vie, dans la société, des difficultés à faire face au changement. On est actuellement dans une période de changement à tous les niveaux. Et les arts et la musique n'y échappent pas. Et c'est justement dans des moments comme ça qu'on est le plus créateur. Plus créateur pour faire, comme disait Daniel, pénétrer la musique classique à tous les niveaux d'âge et à tous les niveaux sociaux, mais aussi créatif pour marier ensemble les bienfaits de la musique avec la contribution des personnes qui en bénéficient. Et ça fait partie de nouvelles façons de faire qui, je pense, vont amener un succès pour avoir plus de moyens pour diffuser les musiques classiques. Et l'autre volet qui fait partie de la philanthropie qu'il ne faut jamais oublier, depuis sa création, les jeunesses musicales ont misé sur le bénévolat comme un outil fondamental dans la philanthropie. Donc, un outil d'aide. Et il y a un grand nombre de centres régionaux qui existent, qui font partie des jeunesses musicales, qui sont pilotés par des bénévoles. Et quand on organise, vous avez vu que dans le programme des fêtes, on a 14 activités pour l'année qui sont sorties des programmes. On a une masse incroyable de bénévoles. On en compte près de 150 actuellement, au total des activités. Et ça aussi, c'est un milieu qui est à encourager parce que donner de son temps, c'est comme donner de l'argent. Et en même temps, ce sont des personnes qui sont convaincues et qui vont diffuser la bonne nouvelle tout autour d'elles.
Est-ce qu'il y a toujours de la place pour accueillir des bénévoles qui seraient intéressés à justement adhérer aux Jeunesses musicales du Canada ou à la Fondation?
Il y a toujours de la place. On cherche des bénévoles. Plus on a de personnes bénévoles, plus on peut générer d'activités, plus on peut faire du suivi, plus on peut encadrer les petits jeunes, plus on peut aller vers les personnes plus âgées qui ne vont pas pouvoir se déplacer, mais la musique peut aller auprès d'eux, auprès d'elles. C'est tout cet écosystème qui est en marche. Et puis, il faut avancer. Il faut faire face aux enjeux, s'adapter, puis être les meilleurs.
Si je peux me permettre, je compléterai en disant que ça fait maintenant 12 ans que je suis à la tête des Jeunesses musicales Canada. Et les bénévoles sont vraiment une source intarissable, non seulement d'engagement et de porte-parole et d'ambassadeurs, mais aussi des gens qui sont sur le terrain et qui nous disent et qui nous partagent leur réalité et qui sont en mesure de nous transmettre directement leurs besoins et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc là-dessus, c'est effectivement, c'est ce qui nous permet de respirer. Et ce qui nous permet, en fait, d'avoir une portée aussi bien ciblée auprès de nos communautés.
La programmation des festivités, mais ça a été lancé le 1er mai officiellement. Puis pendant un an, il y aura plein d'activités, des récitals, des concerts. Vous avez parlé aussi de spectacles théâtraux. Et il y a aussi la jeune soprano Inou Elisabeth Saint-Gelais qui fait partie de votre programmation, juste pour mettre sa voix dans l'oreille de nos auditeurs et auditrices. On va l'écouter pendant une petite minute.
Thank you.
Oui, une voix qui nous laisse sans voix. Alors, parlez-nous de sa participation au sein des Jeunesses musicales du Canada.
Ben, écoutez, nous, c'est une artiste qu'on a sous le radar depuis quelques années déjà, évidemment. Elle n'est pas notre porte-parole, mais elle occupe une grosse portion de nos activités. Elle chante un concert, elle fait un récital pré-concert en l'honneur pour souligner le 5e anniversaire du décès de notre président, Joseph Rouleau. Donc, elle fait un concert, elle va participer à la soirée le 18 mai prochain en faisant un récital pré-concert. Elle va être notre artiste principale dans le cadre de notre projet La Voix humaine présenté en collaboration avec le Festival d'opéra de Québec cet été. Donc, elle va tenir ce beau rôle de l'opéra de Poulenc sur un texte de Cocteau d'une femme qui vit en temps réel devant public la dernière rencontre avec son amant. Donc, c'est vraiment la rupture, et c'est un très bel opéra intimiste, chambriste qui force une théâtralité là, que peu d'autres opéras permettent à cette échelle, je vous dirais. Puis en plus, c'est notre artiste en résidence à l'automne. Pour la quatrième année, donc on a un programme d'artiste en résidence où je donne littéralement carte blanche aux artistes à l'intérieur d'un budget pour qu'ils aient accès à notre salle et qu'ils puissent nous présenter 3 concerts. Que normalement, ils auront peut-être moins la chance de faire parce qu'on pense pas à ces artistes pour ce type de concert-là. Donc, c'est exactement ça que Elisabeth Saint-Gelais va nous faire. Elle va nous faire 3 concerts à l'automne, le 12 septembre, le 17 octobre et le 14 novembre prochain en 2024. Et elle nous invite à entrer dans son monde qui est germanique, qui est jazz, qui inclut des percussionnistes de ses communautés, entre autres aussi un percussionniste de l'ensemble carquois. Elle va chercher un saxophoniste. Alors, on va vraiment découvrir un profil artistique éclaté de sa personnalité qu'on entend moins, par exemple, quand elle chante Vici d'Arte avec orchestre.
Oui, Mme Jonca Adenau. Je regarde la programmation, puis c'est sûr que le temps file, on n'aura pas le temps de passer au travers, mais si vous aviez un coup de cœur, là, Elisabeth Saint-Gelais, je pense que c'en est un, là, parce que je vous écoutais, je vous regardais surtout, l'écouter avec les yeux fermés, puis il y a quelque chose de très, très émouvant. C'est vrai que la musique vient nous chercher comme nul autre art, malgré que j'adore tous les types d'art, mais la musique, c'est un langage qui touche tout le monde. Comme le disait Nietzsche, la musique, sans la musique, la vie serait une erreur. C'est un peu cliché, mais c'est vrai pareil. Alors, est-ce que vous avez un coup de cœur à nous proposer, Mme Jonca Adenau?
Je n'ai pas de coup de cœur particulier à vous proposer. Nous venons d'écouter notre coup de cœur de l'année, puis qui va être probablement dans les grandes artistes internationales dans pas très longtemps, ouais. Elle l'est déjà.
Elisabeth Saint-Gelais.
Mais moi, le coup de cœur que j'ai, c'est de voir ces jeunes qui obtiennent des bourses que l'on leur donne sur concours pour développer leur carrière. Les yeux qui scintillent. On va remettre le 5 juin les bourses AIDA et les autres bourses que la Fondation octroie pour le développement de carrière des jeunes artistes. Puis moi, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois qu'on remet ces prix à des jeunes. C'est des jeunes artistes qui sont quand même avancés, qui ont les larmes aux yeux, qui sont fiers, qui sont émus. Mm-hmm. C'est le petit coup qu'on leur donne pour le développement de leur carrière qui va leur permettre d'aller faire des classes de maître, d'aller travailler avec des grands de ce monde qui vont leur permettre d'aller suivre des cours, etc. Moi, c'est ça peut-être, ce cri du cœur, c'est pas nécessairement autour
le cri d'une du personne.
Le coup de cœur. Le coup de cœur, oui. Ce sont ces jeunes qui sont nos sportifs dans le domaine des arts, qui développent leur carrière, qui veulent atteindre les sommets, qui sont prêts à mettre toute l'énergie, tout le temps, toute la passion. Ils sont généreux, ils performent, ils arrivent. Et moi, je leur donne le tremplin. Hein? On est dans le domaine culturel, on n'est pas dans le domaine des sports, mais ils atteignent le tremplin que les grands sportifs atteignent avec autant de rigueur, autant de discipline. La grosse différence, ils n'ont pas le même revenu rendu là,
Absolument. Madame Leblanc, coup de cœur, ou j'avais aussi la question, si il y a un artiste à l'écoute qui aimerait participer, passer des auditions, comment ça se déroule en quelques mots, s'il vous plaît?
Ben, pour les artistes qui veulent auditionner pour notre organisme, tout se trouve sur notre site web. Si vous allez sur notre site web à www.jmcanada.ca, vous allez trouver un onglet artiste. Et en cliquant sur cet onglet artiste, vous allez avoir accès à nos auditions, à nos bourses, à nos prix. Vous allez voir la première chose sur laquelle vous allez tomber, c'est partez en tournée avec notre organisation et on vous explique comment soumettre votre dossier. Il y a un onglet pour la Fondation du même coup pour pouvoir déposer les dossiers pour le fonds AIDA et tous les autres prix qui sont offerts par la Fondation. Puis je vous dirais, mon coup de cœur, c'est toujours l'événement qui s'en vient. Donc, nous, notre prochain événement avec Dimitri Malignan la semaine prochaine, mardi le 14, à notre salle, ce serait mon prochain coup de cœur, puis il va être suivi de tous mes autres coups de cœur de l'année qui sont nourris par la passion de nos beaux jeunes artistes qui vont nous accompagner durant cette formidable 75e saison.
Des spectacles présentés un petit peu partout, notamment à Montréal et aussi au Nouveau-Brunswick, à Québec. Alors, pour plus d'informations sur la Fondation, sur les jeunesses musicales, est-ce qu'il y a une adresse que vous voulez partager avec nous?
jmcanada.ca, www.jmcanada.ca, vous allez tout trouver.
Alors, joyeux 75e anniversaire aux Jeunesses musicales Canada, joyeux 40e aussi à la Fondation JM Canada. J'en parlais avec Danielle Leblanc, directrice générale et artistique des JMC, et Florence Jonca-Adenau, présidente de la Fondation JM Canada. Merci d'exister et puis à une prochaine certainement.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Du beau piano, encore une fois, par Dimitri, qui va ouvrir donc les festivités officiellement avec le concert apéro hors série Promenade de Dimitri Malignan.